Radio éphémère 89.1 MHz.
Bonjour, bienvenuto. Nous sommes le samedi 1er juillet 2006 officiellement. Il fait beau, il fait chaud et vous écoutez la radio.
Ouais,
pas assez fort peut-être. Ok, on va monter un petit peu et on monte le son. Et comme tous les samedis, FMR ouvre avec les magazines suppléments week-end, ciné, BD, télé, puis le cahier du sport spécial Coupe du Monde. Programme très lourd, attention cette semaine avec la World Cup, Wimbledon et le Tour de France qui part sur du dopage. Et à partir de 15h, analyse d'urine avec en mode progression. 16h, Big Bang. 17h, Vie d'ordure, c'est du punk. 19h, Happy Hour. Et c'est l'apéro là encore, il va bien faire chaud. Ça va partir tout seul. 20h, la Cetero Experience. Et quand c'est trop pico, c'est trop bien quand il fait chaud. 21h30, Liquid Sky. Et 23h, Breakbeat Experience FMR. Nous sommes en direct sur 89.1 MHz jusqu'à 5h du matin.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Et d'ailleurs, le Fantasy Supplément, le Supplément Week-end Fantasy Mondial continue avec l'avant-dernière semaine. Mais avant ça, il faut peut-être que je lance le Fantasy Mondial. Bonjour Thomas, comment vas-tu?
Ah ben ça va bien Xavier, et toi?
Ah ben très très bien. Ouais, je reçois les BD. Thomas, il attend la fête du cinéma pour aller voir plein de films. Et je crois qu'il y en a un qu'il a bien aimé.
Ah, il y en a plusieurs même.
Ouais, il y en a plusieurs, vous allez voir. Bon, en attendant, je vous dis tout de suite. On part sur Tokyo.
You got the wicked style. I like the way that you are. I drop. Shout out, say go. Had a shift of girls. And that's what you drop, that's what you drop.
Gwen Stefani d'assaut. Thomas Han, Gunki d'Oscar.
Si, bien, très bien, Xavier.
Bon, d'accord. Okay.
Dis-moi, c'est peut-être parce qu'on parle ensuite de filles kamikaze.
Je crois que c'est aussi parce que Spirou est parti à Tokyo et on en parle tout à l'heure. Mais je ne tiens pas à casser tout de suite l'élan parce que c'est une émission qui est très très dense, très serrée. Du sport n'est pas encore arrivé, mais je sais qu'il a vraiment une préparation absolument énorme
et merde.
De son côté. Non, pas et merde, énorme, c'est tout, ça suffit largement. Ceci dit, si vous êtes sur Toulouse, il fait vraiment chaud, donc en général quand il fait chaud, le truc c'est de pas faire grand chose. Je peux vous dire que la table de mixage, elle fait rien pendant la nuit, elle est brûlante. Moi j'ai du mal à tenir mes doigts dessus, hein. Le matériel souffre énormément. Et si vous avez la chance, contrairement à l'électronique, de vous reposer et de farniente, ben c'est peut-être l'heure de faire une sieste électronique. Ça tombe bien, c'est lancé depuis...
Quel enchaînement, bravo.
Vendredi dernier, merci. Avec The Sound, donc avec le festival Les Siestes Électroniques qui est lancé. Au départ, les siestes électroniques, c'était juste des séances de mix l'après-midi qui étaient très calmes, très doux, avec GDZ, il y avait Doc Livingstone, il y a eu Peyo d'ailleurs, il me semble. Bref, une programmation plutôt électrique, éclectique et cool. C'était donc sur les berges de la Garonne, sur la prairie des Fields, c'était vraiment sympa. Et là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Pour preuve, The Sound of Music, c'est une exposition collective de Maria Brondel, Florian Domboire, Arnaud Fabre, Björn Schulke, Ralph Steinbrüchel, Zimoun et P.E. Lang. C'est présenté par Volk System, que l'on connaît bien, dans le cadre du festival Les Siestes Électroniques. C'est ouvert tous les jours, sauf les lundis. C'est gratuit, c'est de 13h à 19h. C'est donc une installation de musique électronique à découvrir. Et c'est à la Maison Éclusière. La Maison Éclusière, c'est juste l'embranchement entre la Garonne et le canal de Brienne. Donc, pour ceux qui vont au printemps de septembre, ceux qui viennent souvent au printemps de septembre, vous savez, c'est entre la place des étudiants, là, comme je dis, la place Saint. La place Saint-Pierre et l'espace EDF Bazacle. Donc après tout, pourquoi pas, on ira peut-être comme ça se le faire tranquillement. C'est jusqu'au samedi 22, c'est gratuit, c'est proposé donc par nos amis de Volk System, que l'on salue bien bas. D'un autre côté, revue de presse absolument énorme, mais on a une très très grosse programmation cinéma que l'on va peut-être passer en premier, parce que Thomas, là, il a vraiment du très 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 lourd. Faut dire que Thomas, lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là ? Qu'est-ce que t'as fait
J'ai fait la fête du cinéma dimanche, lundi et mardi.
Et t'as vu combien de films ?
J'en ai vu 5.
Et pour faire l'émission, il a fallu que tu les classes.
Ah, qui dit classement dit...
Le top 5. Numéro 5.
Poséidon, numéro 5, la grosse bouse avec un bateau qui coule.
Numéro 4.
Scary Movie 4. Tu sais très bien ce que tu vas.
Non. Tu sais pas le dire. Tu sais pas le dire, Thomas.
Quoi ? Dire quoi ?
Scary Movie 4.
Non, c'est pas ça.
Scary Movie 4.
Non, Coco, tu l'as toujours pas là.
Scary Movie 4.
Non.
Scary Movie 4.
Eh ben voilà, quand tu veux.
Je sais, j'avais un chat dans la gorge.
Numéro 3.
Marie-Antoinette de la fille Coppola avec des froufrous et des chantilly fraises.
Froufrous.
Numéro 2.
Kamikaze Girls, le film déjanté japonais.
Ah, Tokyo Tsukinesa.
Voilà.
Pardon, excusez-moi, je parle comme une japonaise à faire à prononcer le ou à la fin du verbe, voilà. Hey, Abzu.
Numéro 1.
Attends, je l'ai loupé.
Numéro 2.
Non, encore, on reprend.
Numéro 1.
La colline à des yeux d'Alexandre Aja. Le film d'horreur très 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 éprouvant, il faut pas nier votre opinion.
Oui, c'est une reprise d'ailleurs.
C'est un remake de Wes Craven.
Voilà. Voilà, le classement top 5 de cette semaine était préparé par Thomas, était complètement objectif, et pour cause, puisque c'était suivant ses humeurs, suivant ses envies, et parce que lui, il bénéficie pas de tarifs de réduction ou de places d'honneur de presse en général. Donc,
c'est comme ça qu'on fonctionne, un supplément week-end.
Ah, ça dépend, hein.
Ah oui, non, c'est vrai que.
Bouquin, oui, ça dépend.
C'est vrai que toi, tu te fais offrir les BD. Hein.
Ouais, ça va, merci. Allez, hop, zou, cinéma! Le top 5 cinéma en long, en large, en cinémascope et en Dolby mono surround présenté par Thomas.
Et dis-moi, et si on avait... bon, la revue de presse, on l'a fait après.
Ouais.
D'accord. Allez, on va commencer par le film avec le bateau qui coule. Poséidon, qui est un film de Wolfgang Petersen, qui est quand même un réalisateur spécialiste des films d'eau, puisqu'il avait réalisé Le Bateau et En Pleine Tempête aussi. Donc tu te dis, bon, c'est quand même le mec de la situation quand même. Bon, voilà,
oui, c'est-à-dire il a l'habitude des films d'eau, des films d'aube, des films coulés.
Voilà, c'est exactement ça, sauf que là c'est plus...
vite monter, vite financer, vite couler, comme disent les Bretons.
Voilà. C'est plus le réalisateur de 3 à qui on a affaire cette fois-là, parce que 3, c'est très mauvais. Alors, c'est un film où joue Kurt Russell, Richard Dreyfuss.
Josh.
Oui, il y a Kurt Russell là-dedans, qui interprète un père de famille très BCBG. Là, c'est marrant. Et t'as aussi une actrice d'Alias qui joue la sœur de Simé dans Alias, mais j'ai oublié son nom. Alors, de quoi ça parle? Une pléiade. Bon, d'abord, c'est un remake d'un film qui s'appelle L'Aventure du Poséidon, je crois qu'il était sorti il y a assez longtemps. Une pléiade de riches et flambeurs s'apprête à fêter le nouvel an à bord du gros paquebot Poséidon. Mais une vague déferlante va retourner tout ce beau monde et une poignée de survivants va s'entraider pour se frayer, passage du bateau. Alors voilà, qui c'est qui va crever et qui c'est qui va s'en sortir? Je vous le donne en mille. Donc l'intérêt des films catastrophes, c'est de voir des mecs en apnée, des mecs qui sont prisonniers dans des décors vachement contigus, et puis voilà, c'est pas pour les claustrophobes généralement. Sauf que quand c'est bien fait, il y a pas beaucoup finalement des films catastrophes bien faits. Ben voilà, ça s'étire en longueur et t'as les personnages qui sont assez fouillés. Par exemple.
C'est-à-dire non.
Aussi.
De la screaming girl.
Merde,
de base.
Oui. Un mur, non, on va pas pouvoir s'en sortir. Alors c'est marrant parce que ce film, bon, évidemment il surfe sur le succès de Titanic, qui est sorti quand même il y a 9 ans. Et alors dans Titanic, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que l'iceberg, voilà, il est vachement bien amené, parce qu'il intervient qu'au bout d'1h30. C'est-à-dire que là, il y a eu la romance avant. Je flirte avec machin qui est pas de la même classe sociale que moi. Donc c'est voilà, les personnages, ils ont le temps de se dire plein de vacheries à la gueule et tout. Ils ont le temps de baiser, etc. Et l'iceberg, il arrive au bout d'1h30, parce qu'on te fait comprendre que c'est assez imprudent ce qu'ils font, parce qu'ils vont quand même au milieu des icebergs, et puis ils accélèrent la cadence pour prouver que le Titanic, c'est quand même une sacrée bête de technologie. Et ce qu'il y a dans Poséidon, c'est que c'est pas du tout ça, c'est que c'est oh ouais, on va sabrer champagne, oh, en fait il y a lui dans le film, ah ouais, ok, oh, un iceberg, non.
Oui, ça c'est l'effet des fontes des glaces, c'est le réchauffement planétaire, voilà. Il est arrivé plus vite.
Non, cette fois c'est un tsunami. Alors c'est marrant parce que le capitaine, il y a tout le monde qui fête, qui débouche le champagne, et puis le capitaine il dit, ah mais attendez, vous entendez? Merde, sortons les jumelles, oh, un tsunami. Et voilà. Donc passer ce petit cap, en fait, bah, c'est comme d'habitude, hein, t'as des personnes qui essaient de s'en sortir par tous les moyens. Oui, non, je ne veux pas crever avec vous. Non, je vais essayer de trouver une issue. Mais pourquoi y allez-vous? Il faut que je retrouve ma fille. Et toi, pourquoi t'y vas? Oh, parce que je vais l'accompagner. Et toi, pourquoi t'y vas? Parce que je dois retrouver mon enfant, hein, et moi, mon petit ami. Bon, d'accord, allez-y. Et dès qu'ils sont partis, et ben, comme par hasard, il y a une grosse vague contenue dans les portes qui noie tous les autres, toutes les autres personnes qui n'ont pas voulu aller les rejoindre. Donc, voilà. Donc, dans les survivants, normalement, t'as toujours un représentant d'une minorité. D'habitude, c'est toujours le black, un asiatique, etc. Alors là, c'est l'homosexuel. Donc, ça fait de place pour, y a plus de place pour les autres. Dans tout ce qui est noir dans le bateau, ça
ouais,
crève
en même temps, en même temps, un homosexuel par rapport à un noir, ça se voit mieux dans les scènes sombres.
Oui,
non, pardon, surtout, c'est surtout, nul, c'est nul,
surtout
c'est
qu'il
nul,
a,
je sors.
Surtout que c'est Richard Dreyfuss avec une boucle, un diamant dans une de ses oreilles, donc évidemment, je suis l'homosexuel. Et en plus, l'avantage, c'est dans la pénombre, tu le vois vachement bien le diamant. Ça rejoint ce que tu disais. Et voilà, bon, c'est un film inintéressant parce que toutes les situations, vous l'avez déjà vu ailleurs. Il y a un gamin dans les survivants, ils te font croire à un moment donné, oh, mais il est où? Parce qu'évidemment, il a eu la bonne idée d'aller se balader au moment où il fallait justement aller courir. Et évidemment, tu sais très bien que le garçon, il va pas crever. Tu sais très bien que la fille, l'héroïne, eh ben, elle va pas mourir non plus. Et voilà, et puis.
Bon,
voilà.
C'est pas Shining, quoi.
Non, c'est pas Shining. Par contre, bon, alors là, je vais spoiler parce que voilà.
Alerte spoiler!
Ceux qui ont vu Armageddon, bon, souvenez-vous, c'est Bruce Willis à la fin qui tire la courte paille et puis c'est Ben Affleck, son gendre, qui va se sacrifier pour aller actionner un mécanisme pour faire sauter l'astéroïde. Et Bruce Willis dit, mais non, parce qu'il faut que vous couliez ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Moi, je suis le papa, il faut que je me sacrifie. Alors, c'est lui qui va à la place. Et là, c'est pareil. C'est Kurt Russell qui va se noyer à la place du jeune. Voilà, bon ben voilà, Kurt Russell meurt noyé à la fin du film.
Ah ouais, Coco, c'est super original comme.
Voilà, bon ben c'était Poséidon de Wolfgang Petersen. Si vous avez mieux à voir, allez-y. Hein.
Midi 17, donc Thomas fait toujours le résumé dans Supplément Week-end, son débrief des films de la fête du cinéma. Et ma foi, pour le top 4. Attends, j'installe l'ambiance d'abord.
Toto dit à sa maman, « Dis maman, t'as vu, j'ai donné un sucre au chien et il a remué la queue. » Et sa mère répond, « Super, va donner deux sucres à ton père. » Scary Movie 4, le quatrième et dernier volet de la trilogie. Scary Movie 4, un film drôle mais qui fait peur à la fois. Scary Movie 4, actuellement au cinéma.
Pour une fois, je passe une promo d'un film parce qu'elle est bien faite.
Oui, oui.
Voilà,
oui.
Voilà. Je dois dire, je n'irai jamais voir Scary Movie. Mais par contre, j'ai trouvé, franchement, parce que c'est vrai qu'on bosse dans le milieu du son, donc le coup du mec avec le chat dans la gorge et Coco et tout. C'est vraiment ça, c'est très fort, c'est très bien vu, c'est de ce côté-là.
Alors Scary Movie 4, à chaque fois il faut noter les références. Alors là, il y en a à l'appel évidemment comme d'habitude, mais les principales c'est quand même Saw, La Guerre des Mondes et Le Village.
D'accord.
Alors pour ceux qui n'ont pas vu les films, ils seront un peu largués. Alors le personnage principal, c'est un pastiche de Tom Cruise. Et le film se clôt par une parodie du show qu'il avait fait à l'Oprah Winfrey Show, où il saute sur le canapé. Je pense que tu l'as vu, Xavier. Il déclare sa flamme à Cathy Holmes.
Oui, ouais, je l'aime. Exact, complètement hystérique, voilà. Ça a fait le tour de toutes les télés américaines.
Voilà. Bah, en France même. Et, et là, t'as le mec qui interprète le rôle de Tom Cruise. Et ben, en fait, il est 100 fois plus excité que Tom Cruise. Donc, il bastonne la Oprah Winfrey, il saute de partout, il fait le tour du plateau. Et voilà. Ah oui, il y a une scène assez rigolote aussi. C'est un pastiche de, je crois, d'un film japonais, peut-être The Ring ou Dark Water. C'est donc l'héroïne blonde qui parle à un petit japonais qui lui dit oui, il faut absolument que tu trouves mon assassin parce que je suis mort et je suis un fantôme et tout. Et sauf que c'est comme ça, un japonais, il parle en japonais. Sauf que le japonais dans le film, c'est Mitsubishi, Sony, Nintendo.
Ouh, Placing.
Voilà.
Placing à mort là.
Voilà, c'est que Toyota, Yamashima, Sushi, Hashimi. C'est que des trucs comme ça. C'est assez marrant parce qu'il faut en plus que tu te concentres parce qu'il y a vraiment des sous-titres qui se tiennent. Bon, voilà. Les autres scènes, elles sont un peu oubliables. Mais c'est, ça a le mérite de faire beaucoup rigoler les gens dans la salle. Alors attends, j'ai débranché mon casque par mes gardes, j'essaie de rebrancher.
Voilà. Zou, voilà. C'est l'attaque du matériel.
Voilà, donc Scary Movie 4, voilà, c'est par le réalisateur des Y a-t-il un flic, etc. Il y a aussi Charlie Sheen qui fait une petite apparition au début.
Et qui était dans le 3.
Oui, qui était dans le 3, et là, en fait, il disparaît assez rapidement. Et t'as aussi Bill Pullman qui interprète le rôle à l'origine joué dans Le Village par Brendan Gleeson, il me semble.
D'accord. Du sport vient d'arriver dans 10 minutes. Il faut qu'il présente le texte qu'il n'a pas encore lu. Il vient déjà de
Comment
repartir.
Comment? Tu veux dire que les textes sont écrits à l'avance?
Ah mince.
Merci.
Thomas est branché, non? Oui. Pas tout, hein, mais t'as encore 3 chroniques et t'as 10 minutes.
Alors, pourquoi est-ce qu'on vous passe du New Order? C'est parce que c'est Marie-Antoinette. Tiens, il y a voir quelque part peut-être. Non, c'est le film de Sofia Coppola, très où elle a actualisé un peu les conventions du film de la cour de Louis XVI.
Enfin, en clair, gros anachronisme. Voilà.
Oui, mais justement, ça fonctionne en fait. C'est juste la bande son par-dessus et puis la façon de filmer, j'y reviendrai après. Alors, c'est quoi ce film? C'est l'Autrichienne Marie-Antoinette qui est choisie pour devenir la reine de France pour que les deux royautés puissent vivre en harmonie. Pour cela, elle doit tirer un trait sur toutes ses possessions. Alors, on voit une scène assez horrible au début où elle doit quitter toutes ses amies, elle doit abandonner son chien et tout parce que tu comprends, il faut plus qu'elle possède quoi que ce soit qui vienne d'Autriche. Mais elle récupérera tellement plus. Une prison dorée, un roi de mari impuissant et un chouïa neuneux, et beaucoup de cérémonies.
Amateur de serrurerie.
Amateur de serrurerie, oui, tout à fait, oui. En clair, elle va se faire chier grave. Alors, ce qui frappe dans le troisième film...
Et même pas MTV dans ce bouge.
Non, il n'y a même pas ça. Mais ce qu'il y a de rigolo dans le film, c'est que c'est filmé à caméra à l'épaule. Donc, elle a filmé les jardins de Versailles et les intérieurs du château, mais... du palais, mais
attention,
en fait...
c'est les vrais et c'est extrêmement rare d'ailleurs qu'ils tournent à l'intérieur.
Oui, alors d'habitude,
c'est rarissime.
Ouais, et d'habitude, dans un film conventionnel, t'as toujours les caméras sur travelling pour faire des trucs bien léchés et tout. Et ben là, pas du tout, c'est filmé caméra à l'épaule. T'as l'image qui tremble, tu vois les jardins de Versailles filmés comme jamais auparavant. Et en fait, au lieu de s'attarder sur le cérémonial avec les grandes musiques pompeuses et tout, et ben ça, Sofia Coppola s'attache à filmer les petits moments en creux, c'est-à-dire par exemple Marie-Antoinette va avec ses amis contempler les jardins au petit matin, et au lieu de faire en fond du bête sur la journée d'après, ben il y a une scène au milieu où on voit les domestiques ranger les verres de champagne à moitié bu, les assiettes tout dégoulinantes de chantilly et tout. C'est comme une after, tu vois. C'est voilà, le mec qui a fait une beuverie chez lui et puis là après il faut qu'il range, et c'est assez frais comme manière de raconter l'histoire. T'as la caméra qui hésite pas à être très 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 près du visage de l'héroïne pour souligner quand elle pleure et tout. Ça fait très rarement aussi dans les films à costume. Et voilà, c'est une manière de filmer qui t'as vraiment l'impression que t'aurais pu y aller en fait. D'habitude t'as toujours une distance avec les films en costume, et là par exemple à la fin quand elle dit au revoir au jardin et au palais, la caméra tremble parce qu'elle est dans la calèche, et la lumière fait que voilà, on dirait ton jardin à toi. C'est vraiment très bien foutu. Alors évidemment il y a quelques longueurs dans le film, parce que ça je vais pas le cacher, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé ça chiant, mais elle se fait chier pendant tout le film. C'est un truc répétitif, à un moment donné elle va jouer avec ça, et puis c'est pour ça qu'il y a des longueurs. Donc je dis que ça participe à l'histoire, et moi je dis que c'est une belle réussite. C'était pas évident, hein.
Et il faut dire que les critiques sont pas du tout positives.
Elles sont partagées.
Elles sont partagées parce
que à chaque fois que tu montres que tu es irrévérencieux envers les codes du film de genre, ben ça plaît pas.
Voilà.
Mais moi j'ai trouvé l'interprétation nickel, Kirsten Dunst, franchement, moi je la trouve un peu Palichon dans les Spider-Man, mais là franchement elle est épatante. Et voilà, donc moi je pense que ce film aurait pu s'appeler Lendemain de cuite.
D'accord, bah pourquoi pas après tout.
New Order, ce que je vous ai passé en fond sonore, c'est Primitive Notion. On a essayé de couper la voix du chanteur pour que cela puisse passer et on est super à la bourre, on va se faire couper par les infos. Bah tant pis, elles sont pas à 12h30, zou, Thomas, va falloir t'enchaîner mon cher ami.
Et on va passer au numéro 2.
Attends, je crois que... Oui, vas-y. Oui, vas-y, c'est bon.
On va parler des filles kamikazes.
Des filles kamikazes, des filles sorties de manga.
Ouais.
Ce qui n'est pas un hasard si on passe ça, parce que les Spice Girls, c'est ni plus ni moins inspiré de la J-pop au départ. Eh oui, c'est... Mais à l'époque, c'était pas du tout connu en Europe. Et d'ailleurs, eh ben, on reste au Japon.
Ouais, avec Kamikaze Girls, le film de Tetsuya Nakashima. Alors d'ailleurs, j'ai un magazine que je vais chroniquer tout à l'heure, mais je peux vous passer les images. Pour
oui,
vous faire
bon,
une
c'est
idée
pas de la télévision du... qu'on fait.
Non, mais c'est pour, mes c'est... collègues, pour qui voient un peu à quoi, de quoi ça a l'air.
Ouais, quand voilà. Même, hein. Ça a quand même un design et un look qui est assez impressionnant. Hein.
Oui.
Moi j'ai vu les pubs en ville là, avec ah ouais. Les différentes nanas, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ça le fait quoi, ça ouais. Donne envie d'aller voir le film. Quoi.
Mais les bandes annonces sont assez impressionnantes. Les bandes annonces qu'on a vues 3-4 mois avant, elles étaient vraiment flashy et vraiment un design assez extraordinaire. Quoi.
D'ailleurs, on n'est pas loin du film de Marie-Antoinette parce qu'il se trouve que Momoko, l'héroïne principale, aurait voulu vivre volontiers au XVIIIe siècle en France parce qu'elle est passionnée de la mode rococo.
À mon avis, c'est parce qu'elle a beaucoup lu Versailles Nobara. Lady Oscar.
Alors, elle ne porte que des fringues de la marque Baby. C'est les petites filles qui s'habillent à la Lolita avec des semelles compensées de 3 mètres et des parasols et puis des petits chapeaux à dentelle. Et elle est obsédée par ça. Elle est bardée de cœurs et de dentelles de partout. Et elle a un papa qui est assez busy, qui est assez c'est un loser en fait, puisqu'il s'est fait virer par sa nana, c'est un yakuza manqué. D'ailleurs, il y a des scènes assez rigolotes où il pète dans l'appart et il dégage des nuages cartoon en dessin animé. C'est marrant. Et ça c'est assez barré un peu à la des gags un peu fleur bleue de Mickey, pas les trash. Et alors voilà, elle a un père qui est raté et puis à un moment donné, elle va lancer une petite annonce parce que son père aussi fait de la contrefaçon de vêtements Versace. Et en fait, elle va passer une petite annonce et c'est la deuxième héroïne du film, Ichigo, qui va être nommée ensuite Ichigo, qui veut dire fraise. Qui va répondre à cette annonce et elle fait partie d'un gang de motards, elle crache partout, elle a un tempérament extrêmement violent et elle a peu de manières. Et voilà, donc on va suivre les aventures de ces deux filles. Il y a la Ichigo qui veut absolument rendre hommage à la boss du gang de motards en se faisant broder sur son manteau bleu vif. Merci beaucoup à Mickey, ou je sais plus comment elle s'appelle. Sauf que, en fait, il y a déjà son manteau qui est bardé de kanji. Et la petite fille, elle lui dit, enfin la petite fille, la fillette qui s'habille en petite fille, elle lui dit non mais. Il y a marqué foutez-moi la paix, sauf que tu t'es planté d'idéogramme P, c'est là t'as marqué PET.
Oui, donc là il y a une traduction adaptée quoi.
Voilà. Et par contre, Momoko, celle qui s'habille en Lolita, elle a qu'une passion, c'est s'habiller en baby. Et il y a le créateur de cette célèbre marque qui lui demande justement de faire des broderies sur ses vêtements. Donc elle sait pas encore si elle reste fan otaku de cette marque ou alors est-ce qu'elle devient partie prenante de cette marque. Alors c'est un peu un dilemme à la con hein, dans le film. Tu dis mais pourquoi faire un film là-dessus? assez, c'est ça, justement ça qui est rigolo, ce décalage. T'as une mise en scène qui est assez drôle, puisqu'à un moment donné, t'as un mec qui a une banane à côté, Elvis, il est rasé à la Barthes, tu vois. La banane, elle fait un mètre, t'as la caméra qui fait un long travelling sur la banane. C'est marrant. Bon voilà, c'est frais. À un moment donné, tu peux craindre qu'il y a une baisse de rythme, parce qu'à un moment donné, il y a l'histoire qui prend toute son importance avec l'amitié naissante entre les deux filles. Mais justement, non. Il y a le rythme est soutenu du début à la fin, et c'est ça vraiment le tour de force du film. Tu t'ennuies pas. Le délire visuel, ça passe très bien sur la longueur. C'est un film vraiment à aller voir et qui est très rafraîchissant. Et je crois toujours qu'il passe à l'Utopia. Il passe qu'à l'Utopia à Toulouse. Donc c'était Kamikaze Girls, un film que je retrouve de Tetsuya Nakashima.
Numéro 1. Ou non, il est 22h30, on fait le numéro 1 après les infos.
Salut.
Ah ouais, je sais.
And now, the news.
Le fantasy mondial du supplément week-end vous est résumé par du sport. Bonne chance. Du sport, bonjour. Excuse-moi.
Bonjour. Ah mais c'est mieux là. Compte rendu de la quatrième semaine de supplément week-end fantasy mondial. Thomas, on a parlé la semaine dernière. C'était une finale avant l'heure dès l'écart de finale entre Shaolin Soccer et Might Steel Lexing et le Mario Smash Football de Mario Lidrolico.
Voilà, il sait le faire.
Un match de foot qui tenait plus de la chorégraphie, voir les différents joueurs s'élever dans les airs avant de shooter, c'était vraiment du beau spectacle. Ce fut le niveau des défenses qui a départagé les deux équipes. Avoir mis en goal Donkey Kong était presque un bon choix. C'était un bon choix, en fait, pour arrêter la puissance monstrueuse des tirs de Might Steel Leg. Presque. Au deuxième tir reçu sur la tête, le gorille est rentré en furie et a absolument voulu régler ça au corps à corps. T'as une faute là. Un incident malheureux. Et la maîtrise très zen des Shaolin est tout à leur honneur. Carton rouge pour Donkey Kong, donc, et l'équipe de Mario Smash Football a été affaiblie en défense. 3-2, les Shaolin Soccer montent en demi-finale.
Thomas, tu prends la suite, s'il te plaît.
La suite.
Oui. Du texte.
Du résumé.
Oui, du résumé. Bon, je le fais moi.
Pourquoi on fait pas une coupure musicale en attendant le retour du sport?
Carton. Bon, d'accord, ok.
Ok. Hey.
C'est pas prévu. Ok, on balance les pubs et puis voilà. Et on revient tout à l'heure. C'était pas prévu comme ça. Radio éphémère, tout de suite et pub non supplément week-end.
Catch féminin maintenant avec dans le championnat Super Vixen, un coup de filet dans les gros bonnets, spécial D, spécial E.
You. Do you know that bad girls go to hell?
Ça c'est du sport, tous les samedis 13h, parce qu'il n'y a pas que le foot sur éphémère. D'accord, on reprend, je vous prie.
C'était une histoire de consultant. On y reviendra.
D'accord.
À noter quand même, dans l'autre quart de finale assez explosif entre l'X-Men et les clowns d'Akira, l'arbitre, le docteur Justice, qui a pris sur le fait le capitaine Tetsuo en train d'avaler des pilules pendant un arrêt de jeu. Et donc on soupçonne que toute son équipe se soit bien chargée en amphétamine, un dopage qui a déjà fait parler de lui avec l'audition de Panoramix, le soigneur du Gaulois Olympique, d'ores et déjà éliminé. À noter l'impression nombre de ballons utilisés dans les matchs avec les X-Men, avec un goal tel que Wolverine ayant une manière très très personnelle d'arrêter la balle, snicked, ça fait en moyenne une dizaine de ballons transformés en brochettes à chaque match, comme rien dans le règlement n'interdit d'émontrer le ballon, on fait Comme au tennis, balle neuve. À noter également deux projecteurs pulvérisés quand le ballon a heurté les lunettes de Cyclope. Bah ouais, fallait pas le faire, hein, c'est tout. Victoire quand même très nette des X-Men 4-2. Dans les autres quarts, la JLA de Superman a bien évidemment satellisé l'agence touriste 24-7. La différence étant vraiment trop flagrante entre les deux équipes des redresseurs de tort américains. Quant à Star Wars, malgré leur faible défense, hein, on l'avait stigmatisé dès le début de ce mondial, hein, C3PO et R2-D2 protégeant les buts de Jabba le Hutt. Leur cage ne fut pas réellement mise en danger. Le capitaine du Gaulois Olympique Astérix s'est plusieurs fois plaint de manœuvres vicieuses de l'avant-centre Dark Vador. Rien n'y a fait. 6-3, c'est bien les Star Wars qui montent et on en est déjà aux demi-finales. Demain, les X-Men rencontrent les Jedi de Star Wars et une rencontre qui, pour une fois, est au sommet, sera arbitrée par Kojak. L'autre demi-finale opposera Shaolin Soccer face à la Justice League of America des Superman. Le match est arbitré par l'excellent commandant Picard.
Et les arbitres sont tous chauves.
Bah oui, comme quoi. Merci du sport.
Il manquerait plus que Colina d'ailleurs.
On continue. Avec les pubs.
Et au kilo du supporter violent et raciste, le cours du PSG mérite une enquête de l'autorité des marchés financiers.
Ça, c'est du sport. Tous les samedis, 13h sur FMR.
Mon fuck off. J'étais en train de dire Jean-Pierre Gaillard bien là et tout quoi.
Allez.
Stop.
Du 20 au 23 juillet, es la hora de bailar con el Festival Internacional de Benicassim. Situé sur la Costa del Sol en Espagne, les pieds dans l'eau, cet incroyable festival propose cette année une programmation hollywoodienne. Plus de 150 artistes, de Pixies aux Strokes, en passant par Dionysos, The Rakes ou Franz Ferdinand, c'est tout simplement démentiel. La crème de la scène pop-rock internationale se bouscule sur les 5 scènes du festival. Ajoutez à cela les fêtes sur la plage, du théâtre de rue, des courts-métrages, du farniente y un sol muy caliente. Vous l'aurez compris, le festival de Benicassim est à ne pas manquer. Et même que la Ferrarock vous offre des passes pour que vos vacances soient vraiment musicales, rendez-vous sur le www.ferrarock.com. Le festival de Benicassim du 20 au 23 juillet. Tous les renseignements, www.fiberfib.com.
On repart dans le cinéma, Thomas, avec... Donc on rappelle que Thomas s'est fait une petite sélection et que donc on a eu les 4 premiers films. Et là, on redonne peut-être les références.
Ah oui, bah, en 5e il y avait Poséidon, le film Le bateau qui coule. On a eu Scary Movie 4 en numéro 4, ça ne s'invente pas. Marie-Antoinette en numéro 3, le film de Sofia Coppola sur Marie-Antoinette. Et en numéro 2, Kamikaze Girls de Tetsuya Nakashima, film avec des filles en foufou. À noter aussi qu'il y avait aussi pas mal d'autres films à la fête du cinéma comme Cars ou comme X-Men 3, mais on les avait déjà chroniqués ici. Les films à voir quand même si vous ne les avez pas encore
vus. Ouais, Cars c'est pas mal. Hein. Ouais.
Ah, tu l'as vu ?
Bien sûr.
Mais on va finir en beauté avec La colline à des yeux. Ça, c'est un truc costaud encore. Hein. C'est un film d'Alexandre Aja. D'ailleurs, je crois qu'il est le fils d'Alexandre Arcadi, il me semble. Mais je ne mettrai pas ma main en feu, mais je crois qu'à 90%, je suis sûr. C'est un excellent film d'horreur extrêmement éprouvant. Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut pas amener votre copine là-bas, même certains mecs, j'en connais, qui ont pas supporté. Et c'est interprété notamment par Aaron Stanford, et on y revient toujours, on parlait des X-Men tout à l'heure, c'est celui qui jouait Pyro dans les X-Men, qui est ici méconnaissable, mais on y reviendra. Alors, le film raconte l'histoire d'une famille d'Américains moyens qui quitte l'autoroute pour approcher de plus près le désert. Mauvaise idée, surtout que la première station-service est la seule dans un rayon de 300 km, et que son pompiste... très chelou, approvisionne en chair fraîche la famille de mutants cannibales du coin. Bon appétit. Alors c'est un remake du film de Wes Craven, mais cette fois, Alexandre Aja place sa famille de cannibales sous le signe des expérimentations nucléaires dans le désert américain par le gouvernement. Et d'ailleurs, le générique ouvre le film de façon extrêmement atroce, puisqu'il y a des vidéos traitées graphiquement de champignons nucléaires, d'explosions, entrecoupées de photos de petits fœtus, de gamins mal formés. C'est assez... cette planche de décor avec une musique stridente derrière chaque fois qu'une apparition de photo de mal formée, c'est voilà.
C'est vraiment insoutenable, quoi.
Ah oui, surtout quand tu vas à la fête du cinéma et qu'avant t'as les pubs, les ciné, les films avec 36-15 Allociné, où t'as la pub de camping avant. Voilà, là, c'est ouais.
C'est cool. Oula, ça envoie.
Voilà. Alors au début, le film commence par le portrait de la famille, donc c'est le décor est planté, tu as la caméra qui s'attarde sur l'intérieur de la caravane qui va vraiment être très important dans le film. T'as aussi les portraits de la famille avec le papa qui est revenu de tout, qui est un ancien inspecteur de police, qui a bien bourlingué. T'as sa femme qui est un peu coincée, post-68arde. Tu as la fille qui a épousé un jeune cynique barbu à lunettes qui vend des portables, qui a un petit bébé. La petite sœur la sœur et le frère de la fille de la femme mariée aussi. Tout ce beau monde avec deux chiens. Tu te dis, tiens, deux chiens, ça fait beaucoup, parce qu'il faut toujours dans les films d'horreur qu'il y ait un chien qui survit. Ben justement, il y en a un qui va y passer, quoi. Et alors les mutants, ils sont assez atroces, puisque justement dans le film, bon, évidemment le film joue sur les effets éculés du film d'horreur, c'est-à-dire qu'il y a toujours une ombre fugace qui passe devant la caméra avec un bruit. Voilà, c'est pour que ta copine elle se blottisse contre toi. Et
c'est l'utilité du film d'horreur.
Voilà. Voilà. Sauf que là, ça passe, c'est pas gratuit, parce que justement, c'est pour souligner l'aspect à la fois humain et bestial des agresseurs. Ils sont suffisamment intelligents, car ils sont humains, donc ils mettent au point des procédés assez vicieux pour faire sortir la famille de la caravane. Mais aussi, ils sont suffisamment bestiaux pour les attaquer de front et pour se surgir de hors champ, et de façon que t'aies peur pendant tout le film, que tu te ressautes. C'est très éprouvant pour les nerfs. Mention spéciale à l'interprétation des acteurs, notamment Aaron Stanford, qui est méconnaissable, donc je disais tout à l'heure, Pyro de X-Men 2 et 3, qui est génial dans le film, tu crois vraiment quelqu'un d'autre, et il apporte suffisamment d'humanité pour que tu crois et que ce soit pas quelqu'un de vide qui dit qui a peur pendant tout le film et qu'à la fin il dit j'ai tout pété. Ce qui se passe aussi, mais ça passe bien. Qu'est-ce qui frappe dans le film? Pourquoi est-ce que c'est si éprouvant? C'est parce que à la fois les méchants sont des mutants nucléaires, mais passer les premiers plans sur les mains difformes et tout, bon voilà, après tu vois, tu regardes plus ça. C'est juste que les agressés, les membres de la famille, quand ils sont agressés, il y a un viol, il y a des charges de chevrotine dans la poitrine d'une des filles. Ils n'osent pas crier parce qu'ils sont tellement surpris, effrayés et sous le choc, en fait, que la fille, au lieu de faire comme t'as fait tout à l'heure, elle fait et ça dure très longtemps, ça dure au moins 5 minutes. Tu dis ah non, arrête, arrêtez.
Elle est vraiment, sous le choc, quoi.
Voilà, surtout que t'as une scène aussi.
Donc c'est ignoble là.
Donc c'est pas du tout ça en fait. Justement. Et c'est ça, c'est la peur et le côté effroyable des situations, ça joue sur l'en dedans. C'est que les personnages, ils mettent très longtemps à se décider à attaquer, à contre-attaquer envers les mutants. La fille, tu sais pas trop ce qu'elle va faire, si elle subit, si elle fait un petit coup, si elle donne un petit coup de poil très timide. Les personnages, jusqu'à la vraie fin, ils sont vraiment en dedans. Et c'est ça qui est vachement physiquement éprouvant. C'est que tu dis, allez, bordel, allez-y. Voilà, il n'y a pas d'effet grand-guignolesque. Il y en a un petit peu, parce que c'est quand même un film d'horreur, mais ça reste dans la veine des films des années 70, comme Massacre à la tronçonneuse, c'est sec, t'as la poussière, t'as du sang qui gicle, y a pas d'effet sophistiqué comme aujourd'hui, avec des lumières pour souligner les silhouettes, des trucs sophistiqués, avec des câbles ou avec des gouttes, pour que ce soit suintant. Non, c'est super sec, c'est dans le désert, voilà, t'en prends plein les mirettes. Franchement, j'y pense encore, et pourtant, voilà, je suis revenu pas mal de navets de films de genre, mais c'est quand même assez costaud, ouais.
Ah, excuse-moi.
Oui, du côté des méchants, quand même, il y a du beau linge, hein. Il y a Billy Drago, il y a Ted Levine, je veux dire, bon, ça en jette, quoi.
Alors, Ted Levine, c'est pas un méchant, c'est le père de famille.
Ah, ok.
Je dirais pas comment il finit, d'ailleurs.
non, mais ça va, quoi, c'est le casting qui tue de l'enfer, quoi,
ouais.
Quand même.
C'est un Français.
Exactement. Ouais, Alexandre Aja.
Ouais. Et ouais. C'est produit en plus par Wes Craven. Il a lui-même produit le remake.
Il a lui-même promis le remake, et c'est distribué par la Fox Searchlight, la branche cinéma d'auteur de la Fox.
D'accord. Voilà.
C'était La Colline à des yeux de Alexandre Aja, un film à conseiller d'urgence à tous les fans de films de genre et à ceux que l'horreur ne rebute pas.
Ouais, bah moi ce qui me fait peur, c'est l'horloge. Et 12h43. J'ai pas encore envoyé les revues de presse, j'ai pas encore envoyé les BD.
Et non.
Du sport, je rappelle qu'il a un contrôle d'urine tout à l'heure en direct avant le lancement du Tour de France. Alors on va y aller avec un bouquin un petit peu plus...
Léger ?
Oui, tout à fait. J'ose pas le dire, mais tu vas me dire, oh non, encore, eh oui, des pingouins, tout plein de pingouins.
Ah, au fait, j'ai lu la BD que tu avais chroniquée la semaine dernière avec les filles à Gronibar, effectivement, et bon, t'as menti, parce qu'il y en a, dans un épisode, il y en a une qui est complexée parce qu'elle en a pas, justement.
Oui, non, mais ça, c'est, oui, mais bon, c'est 10% du panel. Il y a 90% quand même de...
En tout cas,
c'est pas des melons, c'est des pastèques.
En tout cas, c'est vrai, mais en tout cas, quand tu lis des BD de cul dans le métro, c'est pratique quand c'est des mangas, parce que c'est très petit. Tu peux cacher
c'est
par rapport à tes voisins.
C'est pas en couleur. Donc en fait il s'agit d'un petit format carré de Xavier Gorce qui est sorti dans la collection 16 chez les éditions In The Moon. Ça s'appelle Les Indrés Givrables. Vu la température qu'il fait en ce moment dans le studio, c'est-à-dire pas moins de 45 degrés, et ça va encore monter quand on va lancer le training, inutile de dire que c'est plutôt frais et plutôt sympa. C'est un recueil de dessins cul de lampe où des pingouins devisent sur le monde, l'univers et le reste. Bon, c'est pas 42. J'en étais sûr. Mais quand même, la prépublication est plutôt originale puisqu'ils sont parus dans Le Monde. Mais attention, dans Le Monde interactif. Plus exactement, en illustration de la newsletter quotidienne qui est envoyée par mail aux lecteurs abonnés au site lemonde.fr. Donc c'est un très beau parrainage, c'est un très beau début pour ces pingouins qui s'adaptent plutôt bien finalement, c'est vrai, au dessin envoyé par mail. Sauf que là, justement, on l'a en papier. Alors tout y passe, de l'opportunisme à l'écologie, de l'esprit de meute à l'égoïsme, de la réduction d'effectifs à la fonte des icebergs. Ah non, excusez-moi, c'est la même chose. Mais bon, ça y va vraiment sec, c'est plutôt rigolo. Alors, si vous partez en vacances, vous aurez vraiment le loisir de découvrir ces drôles d'oiseaux, de les revoir, mais cette fois-ci sur papier, de bien meilleure définition qu'un écran. Et sur la plage, c'est plutôt agréable. Ça donne vraiment envie de se plonger dedans, hein, c'est le cas de le dire.
C'est rigolo parce qu'à un moment donné, t'as un pingouin. C'est quoi, les pingouins ou les manchots ?
Ah, c'est des manchots puisqu'ils sont en or, justement.
Voilà, et donc t'as un manchot qui est en train de regarder son téléphone portable et puis il dit à l'autre « Regarde, est-ce que j'ai les photos de vacances ? Ah non, j'ai pas le temps pour un diaporama. Mais non, mais je les ai sur mon mobile. » Et là, il dit « Regarde les chutes du lac Victoria. » Grandiose, non ? Et c'est un tout petit carré.
96 pixels par 48, c'est pas la joie. Xavier Gorce est le créateur donc des Indés Givrables. C'est dans la collection 16 et c'est édité par In The Moon. On le trouve surtout, à mon avis, chez les libraires spécialisés en bande dessinée, parce que sinon c'est même pas la peine. C'est comment dire ? On part dans de la mangas, mais c'est rare quand même que la manga pour ados, j'efface une chronique aussi longue. Je suis désolé, Dus. Ito Akihiro, donc, c'est le créateur, c'est le mangaka en chef de GeoGrievers. Le premier tome vient de sortir, c'est dans la collection Doki Doki, dont on a parlé la semaine dernière, qui est la nouvelle collection manga qui est lancée par Bamboo édition. Et c'est l'histoire de Taba Yoichi, qui arrive sur le marché de l'emploi et compte bien faire carrière dans une entreprise qui a l'air insolide, du style tu te poses pas de questions sur le chômage, sur la retraite et tout, t'as rien à foutre, et puis voilà. C'est pour ça qu'il se présente à un entretien chez Kagagura Security, une agence de sécurité qu'il a choisi en fonction de sa situation financière, du style ils font des BDF, c'est stable, bon allez tranquille. Bon, pour une fois vous aurez du mal à croire qu'il s'agisse d'une manga d'action à destination d'un public ado, et pourtant c'est le cas. Car à peine arrivé à son rendez-vous, qu'il est jeté dans le bain. Les bureaux sont vides, et tout d'un coup, dans un grand éclat de la baie vitrée, sa chef débarque en éclatant une des vitres, lui envoyant une arbalète, et en criant « Bute le chat !» Bon, tout en dégommant les caméras de surveillance de sa propre boîte. Toute personne équilibrée prendrait à partir de là ses jambes à son cou et ne demanderait pas ses restes, et sinon on se fonçait à la NPE et dire « Bon, finalement, je veux changer d'emploi et veux devenir contrôleur fiscal. » C'est ce que va tenter de faire Taba, et il n'est pas arrivé à l'accueil que malheureusement le chat en question est un esprit tueur pouvant traverser des murs, se transformer en humain ou en fantasmagorie et capable de pirater les réseaux tels que les ascenseurs. En plus, ce Misty Gris, eh ben, il a rajouté le jeune homme à sa liste des cibles. Pour une première journée de travail plutôt mouvementée, eh ben, oui, c'est plutôt mouvementé. Au lieu de s'installer dans ces murs, ça explose dans tous les sens avec des espèces de cartes de tarot explosives qu'on branche par USB sur le PC et tout. Enfin bref, c'est du délire absolu. Et Tabac, eh ben, il n'est pas au bout de ses surprises dans ce drôle de taf. Tous les employés de cette entreprise sont des filles. Pardon. Toutes. La plupart des commanditaires sont de très grosses compagnies et on lui demande de faire un maximum de discrétion, ce qui tient plutôt de la gageure vu les dégâts phénoménaux à chaque intervention. Et vu le nombre de chats errants qui traînent dans une grande ville, quelle peut être la proportion de monstres tueurs qui se tapissent dans les rues, sur nos toits et qui vont jusque dans nos apparts et cocher nos friskies et nos shebas, hein? Pardon.
Et déchirer nos t-shirts.
Excusez-moi, j'ai fait un hommage involontaire à la République des proches françaises, pas pu m'en empêcher. Dans le bestiaire fantastique japonais, ce qu'on appelle le yokai, je croyais que les animaux capables de transformation étaient des renards et les tanuki. Bah quoi, vous avez pas vu Pompoko, le film de Takahaka? Bon, ouais, hein. Mais alors si, pendant qu'on se crève à leur payer le whiskas, ces branleurs de chats qui font rien qu'à fumer des pétards, jouer au baby-foot et grimper au mur, mais non plus un complot pour prendre le contrôle de la planète et asservir la race humaine, et qu'en plus ils peuvent se transformer, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge. Néanmoins, outre la gaudriole et la violence déchaînée contre de pauvres minés, on découvre à la moitié de ce premier tome que l'intrigue est légèrement plus alambiquée qu'il n'y paraît. Et même si ça vaut pas un chat à neuf queues, ça frétille quand même des moustaches. Je tiens à rassurer nos amis, les animaux et ma féline poussière, aucun chat n'a été maltraité pendant cette rubrique. Ito Akihiro, Joe Griever, ce premier tome vient de sortir, c'est dans la collection Doki Doki chez Bambou. Alors là, attention, grand jeu difficile. Thomas, on va entamer la revue de presse. Avec, je tiens à signaler un numéro de Spirou absolument exceptionnel. On croyait Spirou dans la tourmente, c'est faux, ils nous sont revenus. Et encore plus fort, samedi dernier. Le premier numéro spécial est paru ce mercredi et est consacré au manga et au Japon. Un numéro surprenant puisqu'il possède 2 sens de lecture. C'est-à-dire que, ben, tout simplement, vous avez la couverture traditionnelle telle qu'on l'a en France. En France, c'est Robe 12, hein, sinon c'est Spirou, sinon c'est Robe 12, effectivement, en Belgique, flamande et dans le reste. Et maintenant, du sport. Attention, on retourne. Non. De l'autre côté, Spirou traduit en japonais pour la couverture et la suite de Spirou se lit, excusez-moi du peu,
droite à gauche.
De droite à gauche. Et en plus, un japonais a repris Spirou et lui a inventé une adolescence. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer à l'hôtel Moustique, il est rentré à l'hôtel New Moustique du côté de Tokyo, vous savez, à Ishibaka et tout ça. Enfin bon, c'est plutôt rigolo. Franchement, je me suis aller de rire à le lire. Pourquoi? Parce que Jean-David Morvan et José Luis Munuera pour le 49e aventure de Spirou ont décidé de partir de le faire partir à Tokyo. Morvan va souvent à Tokyo. D'ailleurs, il a sorti un très très bon bouquin récemment avec Le Petit Monde, avec une des dessinatrices japonaises. Et José Luis Munuera est quand même très très proche de la manga. Et ben là, ils ont demandé à un japonais très connu, Oshima, de faire une aventure de Spirou inédite, etc. C'est une vraie révolution parce que pendant des années, Dupuis a promis juré que jamais ils ne feront de manga. Là, ils le font et en plus, ils le font avec énormément de style. Mais c'est pas fini parce que dès mercredi prochain, le rédacteur en chef, eh ben, c'est Zidrou qui vous fera découvrir Spirou, eh ben, côté espagnol. Spirou devient Mister K. Pourquoi? Parce que pendant tout l'été, chaque numéro de Spirou qui va sortir, et vraiment, il n'y en aura aucun à manquer, c'est ça qui me rend vraiment pantois, ils seront tous exclusivement consacrés à un pays, avec un dessinateur de Spirou qui fait inviter des dessinateurs du pays en question. Et Spirou change de nom d'ailleurs en fonction des pays, c'est-à-dire que Spirou va devenir Mister K pour l'Espagne. Le numéro suivant, c'est le Vietnam avec Caro et Cornette, et d'ailleurs ils sont allés sur place, ils ont fait des ateliers de BD, etc. Et Spirou s'appellera Nok Alors, il va pas falloir demander Spirou, il va falloir demander Nock. Et je peux vous dire que j'ai déjà ce numéro. J'ai fait 4 débits de tabac pour le trouver. Hein. Ils se sont trompés à chaque fois. Ils mettaient la mauvaise couverture. Enfin, je sais pas ce qu'il leur a pris. Roberto Pazos pour l'Argentine, où Spirou devient El Pibe
de Oro.
Et oui, s'il vous plaît. So Marvena Sowa et Sylvain Saouya sont allés en Pologne. Et Spirou, là-bas, ça s'appelle Spritek. Nom du sport va me regarder et il va me dire non, c'est pas Spritek qu'on prononce avec son accent alsacien.
Spritek peut-être. Non.
Du sport.
Non,
oui, non, il sait pas.
Bon, non, hein, comme tu le prononces, hein, à la française quoi.
D'accord. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pris d'ailleurs. Delaf et Dubuc, eux sont les dessinateurs québécois. Et Spirou là-bas s'appelle Spirou, mais ils l'ont appelé Sorno. Donc c'est plutôt intéressant. Eric Varnaud et l'équipe du Trait Noir, c'est une équipe de dessinateurs camerounais. Et au Cameroun, Spirou eh ben, va devenir Zamzam. Salma et Matteo s'occupent de l'Italie. Et Nyx et Joanne de mort vont se faire Spirou pour la Flandre. Et là-bas, Spirou, eh ben, il s'appelle Robedouze. Puisque c'était la première édition non francophone que Spirou a eue, normal, puisque Spirou est belge. Et que là-bas, toutes les revues sortent à la fois en français et en flamand. Donc voilà. Donc Olivier Van Werenberg, le rédacteur en chef de Spirou, rédacteur en chef normal, il montre un enthousiasme énorme. Et franchement, eh ben, on sent que ça va être du lourd, du costaud, et qu'aucun numéro de Spirou va être à manquer cet été. C'est vrai qu'ils sont revenus à des niveaux très 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 hauts en production. C'est vrai que là, je me le suis farci et c'est énorme. C'est absolument génial. Il y a eu juste un bug pour la couverture japonaise, c'est qu'ils ont converti d'euros en yens et il y a des virgules du coup. Il n'y a pas de centime en yen. Hein. Le yen, ça fait 0,01 euros et des pelures. En tout cas, c'est plutôt rigolo et sympa. Thomas, qu'as-tu trouvé ?
Moi, j'ai trouvé Madasia. Alors, Madasia, c'est le numéro 4, 5,90€, bimestriel de juin-juillet 2006, avec en couverture Takeshi Kitano, blond, même coiffure que dans Zatoichi. Alors c'est à l'occasion de la sortie.
C'est très japonais aujourd'hui.
Oui, à l'occasion de la sortie de son nouveau film qui s'appelle tout simplement Takeshi's, qui où il parle de sa schizophrénie, il ne sait pas encore s'il doit abandonner son alter ego Beat Takeshi de présentateur télé au Japon, ou alors se consacrer exclusivement à sa carrière de cinéaste. Et là, il parle justement de cette ambivalence qu'il a, de ce côté schizophrène, de toute façon qui était déjà dans toute sa filmo, pour les connaisseurs. Alors, hormis cette couverture et ce dossier consacré à son nouveau film, il y a aussi les chroniques de films comme The Host, qui est un kaiju ega, c'est-à-dire un film de monstre à la Godzilla, réalisé par le réalisateur de Memories of Murder, Bong Soon-ho, et qui est un excellent film de monstre, paraît-il. Il y a aussi un dossier sur Kamikaze Girls, dont on vous a parlé tout à l'heure, et sur la ressortie d'un joyau de la Shaw Brothers, Les 14 Amazones, qui passe en ce moment à l'Utopia, ainsi qu'un DVD, une rubrique DVD consacrée à Final Fantasy VII Advent Children, The Blade et Lady Vengeance. The Blade, je crois qu'on va faire une chronique exprès dans pas longtemps, parce que moi j'ai toujours pas regardé les bonus. Il y a aussi un gros dossier sur un des films les plus attendus par les fans du bonhomme, c'est le nouveau film de Mamoru Oshii qui s'appelle Tachigi et qui est consacré à la restauration rapide, et c'est un film dans la veine visuelle de Avalon. Alors je vais retrouver les pages, voilà. Visuellement très très beau, et c'est avec des images fixes, des images détourées de ses copains qui sont venus faire l'acteur, et il utilise ce qu'on appelle la technique du compositing, c'est-à-dire des calques mis à une échelle différente d'une caméra virtuelle pour simuler des effets de perspective.
C'est un peu les bouquins que vous dépliez, vous avez les plans qui viennent et ça fait des profondeurs, et voilà. Vous regardez un peu dans tous les sens. Voilà.
Exactement.
Tu maîtrises bien toi le compositing. Donc.
Et on a aussi un dossier sur les films asiatiques à Cannes, puisqu'il y en a eu au moins une trentaine, si on compte aussi le marché du film, plus les sections parallèles. Les journalistes de Madasia les ont tous vus, ils ont tous chroniqué, donc ils ont dit tiens, ça c'est pas bien, ça c'est bien, etc. Et on a aussi un dossier sur Enzo the Razor avec l'acteur de Baby Cart. C'est l'histoire du samouraï qui torture avec sa bite énorme. Et on a aussi une interview fleuve sur la carrière de Masaru Konuma, qui est un réalisateur de films érotiques. Et d'ailleurs, il y a la couverture. C'est pour ça qu'il est pas trop recommandé de lire ce magazine dans le métro parce qu'il y a tout le monde qui vous regarde. C'est, au dos, il y a l'affiche de ce, du film de, justement du mec, La vie secrète de Madame Yoshino. Et c'est une fille, une femme tatouée avec, bah, qui est à poil d'ailleurs, en train de, d'être sur un mec qui a. Voilà.
Elle est plutôt bien formée.
Oui, voilà.
Elle est plutôt mignonne. Il n'y a pas à dire.
Madasia, numéro 4, 5,90€, et c'est le numéro juin-juillet.
Je crois que du sport va me massacrer, mais j'aurai juste 40 secondes pour dire que Télé Loisirs a retrouvé le petit Nicolas, c'est-à-dire qu'il y a des aventures inédites du petit Nicolas de Sampé et René Goscinny qui sortent dans le Télé Loisirs pendant tout cet été et que ça sortira en recueil en octobre. Donc c'est plus, c'est intéressant après tout si vous êtes gros gros fan de Agnan le Fayot, de Alfeft le petit gros qui n'arrête pas de manger, de Clotaire qui est le cancre parce que lui, ses parents ont la télé. Et donc c'est deux pages complètes qui sont proposées chaque semaine dans Télé Loisirs, donc le magazine télé. J'ai oublié de dire que dans Spirou Hebdo, cette semaine, il y a un grand concours. Ils ont fait les courses à Tokyo, dans un quelconque magasin, et c'est plutôt pas mal d'ailleurs.
Oui.
Et 13h, et du sport vient de sortir la hache à demain et va me décapiter. Non mais du sport, promis juré, là, je t'envoie un fond.
Bah l'autre, attends, il va passer en fond musical un CD qu'il a même pas décacheté, qui est encore sous cellophane.
Ah non, c'est pas un fond musical ça, je refuse de le passer en fond ça.
C'est quoi?
Eh ben c'est Didier Vampasse, mon cher ami, et là, du sport, il insiste lourdement. Didier Vampasse qui est passé en concert d'ailleurs il y a un mois. Si, attends, il est dû ça. Oh, bien. Eh, je suis sur FMR, hein. On est au courant des concerts, s'il te plaît. On y va, Ezou, c'est parti! Bravo!
Et depuis tu passes tes nuits, au Tokyo Yaki. Une écatrie de Supreme Dan sur l'île Campanile, c'est ce à quoi tu rêves depuis que t'es parti. Oh, à Kawasaki. Et depuis tu passes tes nuits, au Tokyo Yaki. Le suprême d'homme sur une campanile, c'est ce à quoi tu rêves depuis que t'es parti à Kawasaki. Et depuis que tu passes tes nuits au Tokyo Yaki.
Oui, du sport, on est désolé pour le débordement.
Bah, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Comme on est dans la revue de presse, bah on va en continuer avec Comic Box, le numéro, je sais pas combien est sorti, je crois que c'est le 5 hein, de la nouvelle édition, me semble-t-il, dans le 6 déjà, quoi. Ah bah ouais, quand même. Un numéro, alors bon, pareil aux autres, avec pas mal de la BD originale, il y a pas mal d'entretiens, pas mal d'interviews donc avec des personnages qui comptent dans le monde des comics. Et au départ, bien entendu, dossier Superman, non, il est pas énorme en fait, t'as là, Superman en couverture parce que le film va sortir là bientôt.
Très beau dessin d'Alex Ross d'ailleurs.
Mais plutôt un truc qui s'appelle La construction d'un mythe, un article, et qui explique comment les origines de Superman, est-ce qu'il est devenu, comment on a trouvé la kryptonite et tout, parce qu'il n'y avait pas ça tout au départ, c'est vachement simple en fait. Je ne vais pas y revenir, hein, de toute façon, il vaut mieux acheter la.
Il y a Thomas qui. Non, non.
Pourquoi ?
T'étais pas là la semaine dernière ?
Non, j'étais pas là.
J'ai chroniqué.
Ce qui est plus intéressant en fait, c'est que c'est un rapport plus direct avec le monde de la télé, vu que au niveau des interviews, eh bien, il y a tout d'abord le gros, c'est l'interview, bien sûr, hein, celui avec J.J. Abrams et surtout Damon Lindelof, hein, qui est créateur mais scénariste également, et Damon Lindelof qui a également bien dessiné une série, hein, qui s'est attelé aux comics chez Marvel et a fait deux numéros seulement de Ultimate Wolverine versus Hulk, donc ça peut être intéressant. Et Damon Lindelof qui raconte des trucs pas mal, et où il y a carrément un spoiler. Bon, on apprend aussi que J.J. Abrams il va réaliser le numéro 11 de Star Trek. Et il y a un spoiler également qui moi va vachement botter quand même, quoi. C'est à propos de Lost. Alors c'est bon, on va bien y aller et tout, quoi. C'est les nanas qui couchent, elles crèvent. Là, c'est cool, c'est pas mal.
C'est le principe n'importe quel film d'horreur, ça.
Non, mais Lost est quand même un petit peu différent, quoi. Alors que là, bon, ok, quoi. T'as un petit repère. Il y a l'interview de Alan Hedberg qui a été scénariste sur Sex and the City, sur Newport Beach, sur Gilmore Girls et sur Party of Five. La Via 5 en français. Et bon, Brian Michael Bendis, ça c'est pour les amateurs de comics. Et surtout l'interview de Jerry Conway qui a fait une carrière un petit peu éphémère, enfin il y a très longtemps dans les comics, et qui nous a fait Amazing Spider-Man, il tue Gwen Stacy, enfin bon, des trucs pas possibles. Et il a surtout œuvré au début des années 80 et alors jusqu'à nos jours dans les séries télé. Là il en a fait un paquet: Matlock, Perry Mason, Hercule, le Pacific Blue, et il a débarqué dans la franchise de Dick Wolf, New York Police Judiciaire, et ensuite New York Section Criminelle, dont il s'occupe depuis la saison 2, hein, vous pouvez voir son nom au générique de cette série. Cette série qui, d'ailleurs, comme par hasard, eh bien, comme il y a un premier dimanche où il n'y a pas de foot depuis 3 semaines, eh ouais, On respire.
Oh non, moi c'est... ça me fait tout droit là.
Ouais, mais c'est du sport qui dit. C'est bien, du sport qui dit ça. C'est collector.
On va pouvoir eh bien se délecter devant quelques petits épisodes de New York Criminal Intent, justement, de Jerry Conway, entre autres. Il y a pas que lui, bien entendu, qui vont passer bien demain soir en prime time, s'il vous plaît, sur TF1 en prime time, un petit peu décalé parce que demain c'est le Grand Prix d'Indianapolis de Formule 1, et comme il y a le décalage horaire, la course elle commence vers 19h, je crois, donc arrivée de course, bon, tout le bordel, c'est un petit peu décalé, donc décalé sur TF1, ça commence à 21h10 avec des épisodes inédits. D'abord la saison 5, je reviens pas là, vite fait sur Criminal Intent, hein, c'est Section Criminelle en français, avec Vincent D'Onofrio, le Sherlock Holmes, absolument imparable, il réussit toujours à les avoir. Non, il y a des fois ça marche pas, mais c'est pas grave. Parce qu'ils attendent un an ou deux ans, et puis hop, ils te ressortent le truc et tout, et là, ils le niquent grave quand même, quoi. Et là, c'est bien. Et secondé par Catherine Herbe, qui ça a été intégré au scénario dans la saison 2 ou dans la saison 3. Elle était enceinte vraiment dans la vie et tout, donc hop et tout, elle apparaît enceinte. Ensuite, tu la vois pas pendant quelques épisodes, et puis elle réapparaît. Et on file une remplaçante, ça se passe très très bien, hein. C'est nickel, c'est comme sur du velours. Le premier épisode s'appelle Victime au bureau. Avec dans le rôle principal de celui qu'on sait pas si c'est l'assassin, mais certainement Corbin Bernsen, le dentiste, également vu bien sûr dans un rôle récurrent dans L.A. Law, la très vieille série fin des années 80 de Boschko. Le deuxième épisode de la saison 4 de Perfection Maternelle, le troisième de la saison 5, Une Seconde Chance, c'est demain soir donc sur TF1, alors que la bataille fait rage, bien entendu, il n'y a pas de match de foot, là la concurrence est plus saine, et donc sur France 2 à la même heure ou pratiquement, demain soir, 20h55, on nous fait de l'inédit, de série de classe Cold Case. Bon, du déjà vu, mais sur une chaîne cryptée. Donc, bon, voilà, c'est du clair. Cold Case, bonne série, on va dire, hein, qui s'appelle Cold Case, affaire classée en français, interprétée par Catherine Maurice dans le rôle principal, celui de Lily Rush, également Danny Pino, Jeremy Ratchford. Alors, deux épisodes, donc, à la sauce demain soir sur France 2 de la saison 2, bien entendu, avec Daniela et Au bout du tunnel, ainsi qu'un épisode de la saison 1, L'héritier. Alors, c'est produit par Jerry Bruckheimer, qui est un gros enfoiré. Bon, il a fait Les Experts, des séries qui marchent bien. Là, il s'est bien reconverti dans la télé. Il se fait des couilles en or, quoi, avec la télé, hein, parce que faut dire que toute la franchise des Experts, là, c'est bon, c'est parti. Vas-y, ça me fait de la rente.
Je tranquille. T'en ai quatre.
Et cet enfoiré, il a tout piqué sur une série canadienne, hein, je parle de Cold Case, hein, qui marche assez bien en fait. Et il a tout piqué sur Brigade Spéciale, qui s'appelle Cold Squad, version originale, qui est une série canadienne dont le rôle principal est interprété par Julie Stewart, hein, qui joue le rôle de Ally McCormick, avec le vieux détective sur le retour, Tony Logozzo, interprété par Michael Hogan, qui est excellent. Il y a Joy Tanner dans le rôle de la profileuse, hein, Jill. Et là, bah, pour faire la différence, c'est bien simple. Hein, demain soir, c'est Cold Case, donc la version Bruckheimer. Et en prime time, donc Brigade Spéciale Cold Squad, ce sera sur TMC, c'est la chaîne qui diffusait. Il y avait déjà eu une diffusion, mais qui était entre deux eaux, genre vers 18h, 18h30, tu sais, tous les jours. Laisse tomber, ça vaut pas trop le coup. Là, bah, c'est le soir, en prime time à 20h45, jeudi prochain sur TMC, trois épisodes. La particularité de cette série, c'est que les épisodes portent le nom ou le prénom des affaires dont les détectives, dont les enquêteurs s'occupent. Donc trois épisodes, le premier s'appelle Christopher Williams, le deuxième Janine Elston, et le troisième Tess, un brigade spécial comme Cold Case, hein, le but du jeu c'est un petit peu, c'est dans des services de police, et comme dans X-Files, bah, ils recherchent des affaires classées, des vieux trucs qui datent de 20, 25 ans, 30 ans, et 30 ans après, bah, ils arrivent quand même à découvrir qui sont
les assassins. La technologie est dans, les témoignages, les langues s'étant déliées, etc.
Ouais, une façon différente de mener l'enquête, enfin bon, plein de choses.
C'est vrai que les années 80, pour mener une enquête, c'était que personne ne bouge.
En tout cas, s'il faut faire le choix, hein, mon choix de toute façon est fait, hein, c'est Cold Squad, qui est nettement mieux foutu, avec des histoires qui sont nettement plus efficaces, hein, que Cold Squad. Un petit téléfilm demain, un téléfilm qui a chopé pas mal de récompenses et tout, c'est le téléfilm Elvis. Quand on sait que l'un des meilleurs films de John Carpenter, c'est quand même Elvis, avec un Kurt Russell mémorable, magnifique.
Et oui, qui ne revient pas d'ailleurs en Poséidon en ce moment.
Hein, bah oui, mais bah, écoute, hein, il faut bien payer sa retraite, hein. Tu sais ce que c'est, hein. Elvis, donc,
qui passe Snake.
Demain soir, bah, tu vois, la concurrence du dimanche soir, hein, elle est terrible, hein. Et encore, j'ai pas choisi tous les trucs qu'il y avait dimanche soir, demain soir, parce que c'est l'enfer, il y a un choix, tu le crois pas, hein. Demain soir, donc, sur Canal Plus à 21h, Elvis. Alors, c'est une mini-série de deux épisodes d'une heure et demie, donc là, on va se taper les trois heures in extenso, donc, de ce téléfilm de 2005, de l'année dernière, de James Steven Sadowitz, avec dans le rôle d'Elvis, Aaron Presley, Jonathan Rhys-Meyer, qui a gagné le Golden Globe de cette année, hein, pour ce rôle. Il y a Kamryn Manheim qui joue le rôle de la mère. La mère est très importante dans la vie d'Elvis, très très importante. Quand elle crève, alors là c'est fini, là c'est niqué, tu vois, là Elvis c'est plus le même du tout. Kamryn Manheim qu'on a vu dans un rôle récurrent dans le cabinet d'avocat McDonnell and Associates, dans la série The Practice. Il y a Robert Patrick qui joue le rôle du père. Moi je me demandais, j'avais vu le truc, je savais que ça allait passer, je me demandais qui c'est qui va jouer le rôle de Colonel Parker, hein, et c'est Randy Quaid qui s'y colle, donc ouais, ça peut être pas mal. Rose McGowan qui interprète le rôle de Anne-Margaret, et Tim Guiney celui de Sam Phillips. Donc 3 heures à vous taper demain soir, hein, si vous avez envie de savoir. C'est assez documentaire, ça couvre la période de la naissance d'Elvis, et ça s'arrête au moment du renouveau d'Elvis, hein, quand il a donné ce fameux show tout en cuir sur à la télé à NBC en 1968, hein, ça a été le renouveau, il s'était empâté, il tournait plus que des films de Norman Thorogue improbables, en 4e vitesse, enfin que des navets comme ça, quoi, tu sais, il en tournait 6 par an, enfin bon, c'était la folie furieuse, il passait son temps enfermé dans les hôtels, à fumer de la ganja, à boire de la bière, tranquille avec des potes, à s'empiffrer, bref. Et là, c'était retour et tout. Et c'est con, parce que ça s'arrête à, ces 3 heures s'arrêtent sur ce show, c'est-à-dire le renouveau. On monte pas la déchéance qui a suivi après jusqu'à la mort finale. Bon, c'est un petit peu dommage, mais enfin bon, ça peut être intéressant quand même. De la série inédite, il y en a quand même. Et bon, on va pas accabler TF1 parce que bon, j'en ai marre de le faire pratiquement chaque semaine parce que bon, c'est quand même des gros enfoirés, quoi. Faut quand même pas déconner. C'est une série qui est complètement inédite en France, hein, qui s'appelle Grey's Anatomy, qui a eu une super presse et qui a eu une bonne, très bonne audience, hein, lors de sa diffusion aux États-Unis. Grey's Anatomy, encore une série médicale, mais un petit peu différente. Ouais, bah, ce qui fait un petit peu le choix, c'est peut-être un petit peu sa légèreté. Grey's Anatomy, le titre bien est inspiré du nom de la personnage principale, Meredith Grey, interprétée par Ellen Pompeo, dont c'est le premier jour en tant qu'interne au Seattle Grace Hospital dans le service de chirurgie. On y retrouve également dans le rôle des nouveaux internes Katrina Aigle, qu'on avait déjà vu dans Roswell, Patrick Dempsey et bien d'autres. Deux et trois épisodes vous sont proposés sur TF1 à partir de 22h30 lundi soir, comme ça en bouche-trou. Vas-y, écoute, je te dégage ça vite fait, de toute façon c'est pas la peine. Merci TF1, enfin ça fait quand même plaisir. Jetez-y quand même un œil, ça a l'air bien léger, plaisant, avec du cul, des petites scènes vaudevillesques. On est décalé, hein, par rapport à Urgence. Urgence fait plus dans le truc trip social et tout, c'est la vraie vie, regardez, c'est comme ça que ça se passe et tout. Là, bon, bah ok, c'est un petit peu décalé quand même, et c'est pour cela que cette série médicale, encore une, avec quand même une grosse concurrence, Dr House, quoi, mais bon, a su quand même un petit peu se débrouiller pour rester à l'affiche et à l'écran outre-Atlantique. Ce soir, par contre, sur France 2, dans Tout le monde en parle, ça va être terrible. Bernard Tapie et Roland Courbis ensemble. Oh, on croit rêver, mais si, à partir de 22h40, 23h, hein,
l'émission le match
de Hardisson, quoi, ça peut être intéressant. Non, parce que c'est une émission qui est enregistrée généralement la veille, le vendredi, vendredi après-midi, le vendredi matin, Tout le monde en parle. C'est pas une émission en direct.
Oui, c'est sérieusement remonté.
Le match, il va pas être diffusé sur France 2, il va être diffusé sur TF1, la France-Brésil.
Oui.
Donc en fait, peut-être que s'il y a des prolongations, ça va se chevaucher, quoi.
Ouais. Je vous ai déjà parlé de cette série qui s'appelle New York Court de Justice, de Jury en version originale. Et là, bien, la nouvelle diffusion erratique, chaotique, carrément merdique de TF1, quoi, on peut le dire, quoi. C'est demain en plein après-midi à la place de Walker Texas Rangers à 15h. Cette série, donc, c'est le seul flop de Dick Wolf en ce qui concerne toute la série des New York Police Judiciaire et tout ça. C'est le seul flop, hein. La série a duré une saison, 12 épisodes, et puis bon, merci, c'est pas la peine, vous revenez pas en deuxième saison. Mais c'est quand même une série qui est regardable, le rythme est plus lent que les autres séries qui sont plus des polices procédurales, alors là que l'ensemble de l'action, si action y a, se passe dans le prétoire, dans la cour de justice. 12 épisodes donc à suivre sur TF1, bah, les dimanches après-midi, ou alors un petit peu mieux, je vous en ai parlé il y a 15 jours, 3 semaines, sur Série Club en VO, mais par contre un petit peu tard le soir. Alors c'est lundi à 22h30 et jeudi à 22h30 des épisodes, avec par exemple lundi prochain deux épisodes, avec l'un avec Joe Morton, l'autre avec Zeljko Ivanec. On va parler un petit peu de Katfael à l'occasion de la rediffusion de cette excellente série, hein, qui au départ, Katfael, l'action se passe en 1098, Katfael a 17 ans et il est en croisade aux côtés de Godefroy de Bouillon. En 1120, il se fait moine, il rentre bien entendu, il se fait moine à l'abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul de Shrewsbury dans le pays de Galles. Katfael est né de la plume et de l'imagination de Alice Peters, qui est une romancière britannique, également spécialiste des 12e et 13e siècles. Elle est diplômée également par ailleurs en pharmacie et en herboristerie. Katfael est donc né de sa plume en 1977 et a été adapté à la télé par une télé privée, ITV, hein, qui est en fait la quatrième chaîne en Angleterre.
C'est la troisième, hein.
C'est la quatrième.
Non, tu confonds avec Channel 4. ITV a été créé en 56 et c'est la grande concurrente historique de la BBC.
Ouais, bon, laisse tomber.
Je suis incalable.
Par ITV en 94, 13 épisodes, des moyens métrages quand même, hein, 75 minutes, mais alors une interprétation qui te laisse le cul par terre. Ça a été tourné bizarrement, hein, ça se passe au Pays de Galles, ça a été tourné en Hongrie, près de Budapest, et interprété magistralement par Derek Jacobi, sœur Derek Jacobi depuis. qui interprète donc le rôle de frère Katfael. Il y a Sean Pertwee dans le rôle de Hugh Beringer, qui est un petit peu le patron, hein, le noble qui s'occupe de tout le coin. Et bien entendu, il y a le monastère, enfin l'abbaye, dirigée par Peter Copley, l'abbé Héribert. Alors là, c'est du rigoriste et tout à fond les manettes. Et Julian Firth, qui joue le rôle de frère Jérôme, enfin qui est l'âme damnée un petit peu, hein, des deux abbés qui régentent un petit peu le monde de cette abbaye. Julian Firth, qui est le frère de Peter Firth, qui est lui-même le frère de Colin Firth. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Et je ne vous ai pas parlé de Jonathan. C'est demain soir à 20h50 sur Paris Première. Alors, les épisodes, généralement, on peut les regarder, c'est des histoires complètes. Hein. Enfin, disons, bon, c'est une histoire, on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé lors des autres histoires. Par contre, il est assez important de regarder l'épisode pilote, celui qui est diffusé demain soir, Un cadavre de trop, qui a été le premier épisode, parce que c'est un épisode où au départ il y a bien entendu l'enquête policière de Katfael, mais on pose bien les bases de ce qui va être la série et de ce qui va être les lieux des différentes actions à suivre dans les autres histoires. Donc très intéressant, avec surtout la participation du méchant Christian Burgess. Christian Burgess, donc l'acteur anglais qui est le méchant dans ce premier épisode, Un cadavre de trop. C'est demain soir sur Paris Première à partir de 20h50. Sinon demain soir, on a été, je te disais qu'il y avait une concurrence farouche, hein, pour le prime time du dimanche soir, sur la chaîne Action à 20h40. Oh, si,
du Michael Dudikoff,
Action Jackson,
non, encore, ça avec fait
Carl
fois.
Weathers, Craig T. Nelson et Vanity.
Oh non.
Si, c'est demain soir à 20h40 sur la chaîne Action. Waouh, dernière page avec une série qui était visible auparavant et qui est encore visible, encore en cours de diffusion sur une chaîne du câble ou du satellite, Teva en l'occurrence, mais qu'on pourra débarquer sur la TNT, voire sur le R. Tiens, c'est sur M6, mardi prochain, The Inside dans la tête des tueurs. Là, on change carrément de registre, hein, sans problème. Hein, c'est l'histoire de cette jeune nana, Rachel Nichols, qui vient intégrer une équipe d'enquêteurs profileurs, hein, qui recherche plus ou moins des criminels, mais enfin bon, patentés, on va dire, et qui a comme particularité d'avoir été une ex-victime. Donc elle a compris ce qui se passait dans la tête des victimes et peut analyser les scènes, enfin bon.
Tiens, voilà. ça me rappelle une personne réelle, un libraire français.
je vais pas en parler. Alors Rachel Nichols, il y a également des noms plus connus, Peter Coyote dans cette série, Adam Baldwin, hein, le frère d'Alec et de Daniel et de Steven, hein, qui est celui qui ressemble le moins, si tu veux, parce qu'Alec, Daniel, bon, on voit que c'est des frangins, il n'y a pas de problème, Steven un petit peu moins quand même, mais alors Adam Baldwin, tu as du mal à croire que c'est le frangin
des
autres.
C'est celui qui est châtain, hein.
Ça dépend comment il est teint dans les films. C'est mardi prochain, donc The Inside à 22h30 sur M6, deux épisodes, ça le justifie, hein, parce que tous les épisodes sont catégorisés moins 12, donc un petit peu chaud. Par contre, est-ce que tu es allé voir le film de OSS 117 là, avec Jean Dujardin?
Non,
et tout, qui paraît-il est vachement bien, que tout le monde se pisse dessus de rire tellement c'est excellent et tout. Je vous propose plutôt les originaux qui sont diffusés sur TF6 depuis pas mal de temps là, et là c'est l'un des gros classiques.
Ils étaient passés sur Polar, hein.
Ouais, mais là il y a la série également sur TF6, Banco à Bangkok pour OSS 117, une belle de 64, une belle, il y en a fait plusieurs avec des OSS 117 différents.
Alors, oui, c'est vrai,
ça c'est assez rigolo, assez long, ouais. Mais là c'est Kevin Matthews qui interprète le rôle de OSS 117 avec dans le rôle du méchant Robert Hossein. Il y a Dominic Wilms et Anna Maria Angeli pour essayer de voir que ouais pas mal, hein, l'italienne et tout, l'histoire elle est terrible, parce que bon, si vous avez bien rigolé avec celui du jardin, ceux-là ils sont vachement agréables à voir pour le décalage qu'il peut y avoir,
surtout ils sont premier degré
pour le premier degré, quoi, parce que là un agent secret démantèle l'organisation d'un psychiatre indien dément qui veut inoculer la peste à l'ensemble des nations occidentales, rends-toi compte. Tout ça donc sur TF6 mardi prochain à 20h50. Encore une série, encore une série. Et là, encore TF1, en gros enfoiré quand même, qui parle de tueurs en série et des équipes chargées de les capturer. C'est Criminal Minds qui est passé complètement inaperçu. Alors, on te débarre une chaîne inédite qui est sortie il y a 2 ans, je crois, aux États-Unis, enfin, qui est inédite en France. Et comme ça, mercredi 23h05 sur TF1, tranquille, en catimini, on va dire, hein, comme ça, interprété magistralement par Mandy Patinkin, hein, Dr. Geiger dans Chicago Hope, et puis plein d'autres trucs. Et puis, il joue également dans... j'ai un trou dans une autre série un peu plus récente qui était diffusée sur Canal Jimmy. Il y a également Thomas Gibson. Alors c'est l'histoire de Mandy Patinkin, le patron d'un département d'analyse comportementale, hein, donc un petit peu ce qui se fait pour essayer de tracer les tueurs en série. C'est diffusé sur TF1 mercredi prochain à 23h05. Il y a également Rome, bien entendu, sur Canal Plus. Là encore, HBO fait très très fort, énorme. Là, laissez tomber.
Coproduction monstrueuse.
Ouais, c'est monstrueux.
C'est 100 millions de dollars, je crois, le
Michael
budget.
Michael Apted à la réalisation, enfin bon, n'en jetez plus. Là, c'est les épisodes 3 et 4, jeudi prochain sur Canal Plus à 20h50. Hein,
tu les as vus, les 1 et les 2 ?
Non,
je sais pas ce que ça vaut.
Ça tue, quoi. Ah. Ça tue.
C'est de la presse dithyrambique là-dessus.
Ouais,
quoi.
Ça tue, quoi.
Parce qu'il y a HBO qui a mis l'argent, mais il y a la BBC qui a mis les consultants derrière. Donc là-dessus, pas de conneries.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Ça calme.
Le film de la semaine, quand même. Le film de la semaine, hein, et je pèse mes mots.
Ah,
c'est un classique de l'épouvante de William Claxton en 72.
Dommage.
Les rongeurs de l'apocalypse.
Oh putain.
Avec Stuart Whitman et Janet Leigh.
Ah, oui.
Et Paul Fix, un sérum supposé contrôler le taux de fécondité des lapins engendre l'apparition de lagomorphes géants. C'est jeudi prochain sur CinéFX. Et attention, c'est très trash. Normal, hein, t'as vu les lapins quand ça mord, hein, ça saigne après. C'est estampillé moins 12 quand même, donc ce film, Les Rongeurs de l'Apocalypse, qui est diffusé par CinéFX jeudi prochain à 21h. Et voilà, c'est tout terminé. Sinon, moi j'ai bien aimé, alors je sais pas, Thomas, on peut engager une petite discussion contradictoire. Le top 5 des meilleurs consultants du mondial dans le supplément de l'équipe
Attention,
magazine. Alors, numéro 1.
Attends.
Non, c'est pas pour les citer dans l'ordre, mais numéro 1, Jean-Luc Haribar et Christophe Dugarry en numéro 2. Alors là, pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec eux.
Dugarry,
il est
pas mauvais.
Hein. Dugarry est vraiment pas mauvais. Moi, il m'a bluffé un petit peu, quoi, quand même, hein, faut dire. Hein. Puis bon, il y a l'accent qu'il fait, il y a cool et tout. Ils disent d'ailleurs, l'immaculé consultant de M6, chemise blanche au commentaire, expertise bleue, regard lucide à cette légère pointe d'accent méridional qui pourrait plus tard lui valoir une pige d'été à Cuisine TV, rubrique comment réussir votre mouclade sur la plage. Alors Jean-Luc Haribar, moi aussi, il me tue parce que bon, Haribar c'est le mec qui fait les commentaires de la Ligue 2, hein, sur Eurosport, donc et il est imbuvable, faisait chier et tout, quoi, enfin bon, te dégoûter de regarder les matchs de Ligue 2, quoi. Et là, depuis que c'est le mondial, il a été transformé. Bon, pas son flow, il a l'habitude de commenter de la même façon, si tu veux, mais le contenu, c'est plus tellement la même chose, je sais pas, quoi. Peut-être qu'il a mangé quelque chose avant le mondial. Enfin bon, alors vraiment très bon.
C'est une, chaîne, vraiment, de, c'est une chaîne de jeunes, hein, même s'ils sont à Neuilly-sur-Seine, il y a des trucs qui circulent.
Vraiment très bon, il n'y a rien à dire, quoi. Après Angel Marcos, quoi, lui il est psychédélique, quoi, mais bon, tu comprends pas ce qu'il dit des fois, mais enfin bon, c'est pas mal. Mais bon, il est consultant sur l'équipe TV, quoi, donc c'est pas tout à fait la même chose. Gérard Rouillet, j'ai même pas envie d'en parler, en numéro 4, quoi, tu vois, tellement ça me dégoûte et tout, quoi. Franck Leboeuf en numéro 5, ça c'est la grosse désillusion, quoi, en fait, de ce mondial, hein.
Ouais, mais moi par contre, il y en a un qu'ils ont pas cité, que moi je place au-dessus de tout, c'est Wenger, quoi.
Ah bah ouais, mais bon, je voulais pas parler de ceux de là, hein, parce que bon,
c'est Arsène Wenger, c'est, mais dommage, franchement, quoi. Il est ce mec, mais c'est une mine d'informations, c'est,
ouais,
c'est...
Bah, je préfère Sportaz, hein, entre nous, hein. On salue les copains de Radio Campus.
Eh ouais.
Bon, allez, on tasse de manière professionnelle nos feuilles. Et on y va. C'était Supplément Week-end du 1er juillet 2006. Une émission qui était censée ne durer qu'une heure. Et si vous avez manqué le début de l'émission à la 27e minute, Thomas vous fait le résumé, s'il te plaît.
Il y a eu le best-of de l'émission, on comprend, une alerte Spice Girl, il y a eu aussi une alerte Screaming Girl, il y a eu un top 5 fêtes du cinéma On a eu de la manga, du cinéma asiatique, un résumé des quarts de finale de la Fantasy mondiale interrompu et un comic box rechroniqué avec également beaucoup de séries télé et un débordement faramineux.
Moi, le titre que je retiendrai à fond, c'est le Spirou Magazine qui est en vente en kiosque jusqu'à mardi. Précipitez-vous, c'est un vraiment très bon numéro. Je tasse les feuilles et je vous annonce donc que du sport va parler de la Coupe du Monde de foot. Du mondial de Wimbledon et de la course à la seringue qui vient d'être démantelée autour du monde. Et à 15h c'est en mode progression, 16h c'est Big Bang, 17h c'est Vie d'ordure, 18h 19h excusez-moi c'est Happy Hour, 20h c'est la CT Euro Experience, 21h30 c'est Liquid Sky et 23h c'est Breakbeat Experience. Vous écoutez Radio FMR, toutes nos émissions sont en direct et en public jusqu'à 5h du matin et Supplément Weekend est disponible sur le net à réécouter. Vous tapez dans Google Supplément Weekend FMR et ça marche. Rendez-vous la semaine prochaine, ciao.
Ciao.
Et bravo à Thomas quand même qui a fait une très 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 bonne émission aujourd'hui à l'écriture et tout le reste. Donc je le fais
comme si ça m'arrivait pas avant.
Ah non mais là franchement t'as fourni.
Merci Xavier.